marche du monde.
Il s'appelle Bakary Diallo, il est l'un des tout premiers tirailleurs sénégalais à avoir écrit son histoire. Mais aujourd'hui sur RFI, c'est sa voix que vous allez pouvoir entendre. Une archive sonore rare et exceptionnelle, restaurée par RFI.
Nous nous sommes embarqués à Casablanca, on s'est débarqué à sec. Comme des tirailleurs sénégalais, mais là on nous a dirigé directement sur le front.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
La voix de Bakary Diallo, tirailleur africain, engagé en 1914 et dans la marche du monde, grâce à vous, Marc Michel. Bonjour et un grand merci.
Bonjour Valérie.
Vous êtes professeur émérite à l'Université de Provence et membre de son Institut d'études africaines, spécialiste de l'Afrique contemporaine et des tirailleurs africains dans la Grande Guerre et l'un des tout premiers historiens. Vous intéressez à ce sujet dès la fin des années 60, à une époque où l'on peut encore rencontrer des tirailleurs africains qui ont fait la Grande Guerre, Marc Michel.
Oui, c'est exact. Et d'entendre la voix de Bakary Diallo, comme on dit assez vulgairement, c'est émotionnant. Près de 50 ans après l'enregistrement de son interview en 73. Effectivement, Bakary Diallo a une vie étonnante, exceptionnelle. Et à sa mort en 1979, on aurait pu imaginer que quelque chose soit organisé autour de lui. Il n'a pas été oublié, loin de là. Mais il n'a pas laissé peut-être la mémoire que l'on pouvait espérer à l'époque.
Alors c'est l'occasion aujourd'hui de se souvenir sur RFI de Bakary Diallo, surtout que les voix, les enregistrements des tirailleurs africains qui ont fait 14-18 sont rarissimes. Mais avant d'écouter plus longuement le témoignage inédit de Bakary Diallo, Marc Michel, je vous propose que l'on revienne sur les circonstances dans lesquelles les Africains se trouvent projetés dans l'engrenage de la Grande Guerre, puisque c'est le titre de votre dernier ouvrage, paru aux éditions Cartala. La Grande Guerre, c'est bien une guerre de blancs, une guerre entre puissances européennes, avec les Français, les Anglais, les Belges d'un côté et les Allemands de l'autre. Et vous montrez, Marc Michel, que ces adversaires en Europe deviennent des adversaires en Afrique. Alors pour quelles raisons et pour quel enjeu ?
Bon, c'est une question très difficile, mais je relèverai une observation extrêmement juste. À mon sens, c'est qu'ils ont été projetés, ces Africains, dans la guerre. Évidemment, personne ne s'attendait à une guerre de ce type, et une guerre qui durerait 4 ans au lieu de 4 semaines. Une guerre qui ferait des millions de victimes au lieu de faire quelques dizaines de milliers de victimes, puisque si on pense ne serait-ce qu'au cas français, il y a eu tout de même, au sortir de la guerre, un bilan de 1 400 000 morts de la guerre. Bon, pour l'essentiel d'ailleurs, des soldats, ce sont des soldats. Les civils ont payé beaucoup moins que la Seconde Guerre mondiale. Et les Africains là-dedans, oui, ils ont été projetés dès le début de la guerre, aussi bien dans la guerre en Europe que dans la guerre en Afrique. C'est pourquoi ils sont devenus adversaires, malgré eux, en Afrique, pour la conquête des colonies allemandes, convoitées du moins dès le début de la guerre par les Alliés.
Voilà, donc l'enjeu est bien territorial pour ces empires coloniaux qui veulent gagner du terrain, qui veulent se battre les uns contre les autres, soit pour conserver leurs colonies, soit pour gagner les colonies de l'autre, et notamment des Allemands, ce qui concerne les Français et les Alliés. Alors je vous propose d'écouter sur cette question le doyen des historiens maliens, le professeur Kamian Bakary. À 86 ans, il est le plus réputé des historiens du Mali. Et au micro de notre correspondant David Bassé, il revient sur la question du recrutement des Africains.
Le grand problème, ces hommes qui ont été recrutés, qui sont partis par la force, ont été transplantés dans des conditions particulières. Ils ne savaient ni la langue du pays, ni la géographie du pays, le climat, la pluie, la neige, le froid. Le froid les a souvent empêchés de se battre. Et dans certaines mesures, on a obligé certains chefs de canton, certains chefs locaux, d'encourager le recrutement des chefs en leur donnant des galons une fois qu'ils arriveraient sur le sol national français.
Qui est-ce qui a fait ces choix ?
Quand on a demandé à un chef de donner 5 soldats, il donne ceux qui étaient disponibles. Il donne avant tout les hommes de caste, les gens de basse condition, avant d'envoyer ses propres enfants. Et cela a permis quand même aux gens des différentes régions du Mali de se connaître, de mieux s'apprécier, de savoir qu'ils sont du même pays. Ils ont les mêmes problèmes, les mêmes intérêts à défendre.
Départs volontaires, mais aussi des recrutements forcés, nous dit le professeur Camion Bakary. Des recrutements forcés qui ont suscité des mouvements insurrectionnels, des rébellions pendant plusieurs mois.
Ces rébellions ont duré plusieurs mois au Mali ici. Et on a envoyé le commandant Kaye pour mater cette rébellion. Et le 16 juin 1915, Jossé, qui était le commandant en chef des troupes de la rébellion du Bledougou, Jossé s'est suicidé avec son fils. La rébellion s'est éteinte.
Mais elles se sont éteintes après combien de morts?
Environ 2 à 3 000 morts. Tandis que ce qu'on appelle communément la révolte des Bobo et des Marka, qui concerne le Burkina et le Mali, les révoltés étaient autour de 600 000. Et il y a des gens qui préfèrent les sentir vivants dans les tombes plutôt que de se rendre.
Au moment du recrutement de la guerre de 14-18, les Français n'ont pas été cherchés partout, ils ne sont pas allés dans le nord du Mali.
Non, les hommes du nord, les nomades du Mali, Touareg, Mor, Kunta, eux n'ont pas été mobilisés. Il n'y a pas un seul ancien combattant nomade, pas un seul Touareg, pas un seul Arabe.
Les Français avaient peur qu'ils se rebellent?
Ils avaient peur des rébellions. Et ces rébellions sont arrivées en 1915 dans la région de Gao, à la frontière Mali-Niger. Et vous savez, le Mali et le Niger faisaient partie de la même colonie, le Soudan français.
Pas de recrutement forcé dans le nord du Mali, nous dit l'historien Bakary Camion, Marc Michel. Et par ailleurs, est-ce que ce que décrit Bakary Camion en ce qui concerne les révoltes, est-ce que c'est emblématique en ce qui concerne les refus des Africains de partir à la guerre?
En écoutant le professeur Camion Bakary, évidemment, on ne peut que souscrire à l'essentiel de tout ce qu'il a dit, d'autant plus qu'étant malien lui-même et fils de tirailleurs, il est affectivement impliqué dans cette histoire. En réalité, elle est très compliquée. Et s'il y a eu, au début de la guerre, des engagements volontaires dans l'enthousiasme des premières semaines, je dirais même des toutes premières semaines. S'il y a eu tout au long de la guerre également des engagements volontaires, il y a eu surtout des refus. Ils n'ont pas concerné le Mali seulement, le Mali actuel, pour la bonne raison que le Mali actuel n'existait pas, mais qu'il existait une très grande colonie qui s'appelait le Haut-Sénégal et Niger, et qui couvrait ce qui constitue aujourd'hui le Mali, le Burkina, Burkina Faso, et même quelques cercles et quelques, disons, préfectures, puisque c'est l'équivalent de Guinée. Cette énorme colonie comprenait évidemment les populations concernées par la révolte évoquée par Bakary Camion. Cette révolte qu'on appelle la révolte du Bélédougou, c'est une révolte d'une zone peuplée essentiellement de Bambara. Et à cet égard, c'est la première révolte armée, mais ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y avait pas eu de refus auparavant. Dès la fin de 1914, même au Sénégal, lieu de recrutement traditionnel des fameux tirailleurs sénégalais, même au Sénégal, il y a des phénomènes de refus, des refus qui se manifestent à travers la fuite en brousse. Les jeunes gens fuient les commissions de recrutement, se cachent, les femmes pleurent. Il y a des manifestations de femmes qui se disent « on a perdu nos fils, on a perdu éventuellement nos époux » parce que partir au loin comme ça, au-delà de la mer, c'était évidemment la fin définitive dans leur esprit de leurs parents.
Alors, ce qui est très intéressant, Marc Michel, c'est que notre grand témoin, le tirailleur sénégalais Bakary Diallo, lui est parti de son plein gré, il s'est engagé. C'est ainsi, tout du moins, qu'il vous a présenté son départ pour la Grande Guerre. Nous allons avec vous remonter le temps, Marc Michel. Nous sommes au Sénégal, au village d'Mbala, en 73, et vous questionnez Bakary Diallo sur son entrée dans l'armée française. Voici comment Bakary Diallo vous explique son engagement dans la ville de Saint-Louis, au Sénégal.
Pour s'engager, je suis arrivé à Saint-Louis. J'ai resté à Saint-Louis. Et puis un jour, on s'est rendu place Fédère. Il se trouvait à l'instant qu'une compagnie de tirailleurs sénégalais qui était en manœuvre vers Ndiodoune, etc., qui rentrait pour aller au quartier, le premier régiment de tirailleurs sénégalais, là-bas dans le nord. Ils venaient comme ça, la musique, les officiers à cheval, les soldats au pas, tac, 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 la musique. On a regardé ça comme quelque chose d'extraordinaire et qui nous a émerveillés et qui nous a plu. Le lendemain, nous sommes allés nous présenter au camp du premier Sénégalais. On arrive, bonjour, alors... Ils nous demandent qu'est-ce que nous voulions, nous voulons nous engager. Alors, nous étions reçus, comme tirailleurs, et pour 4 ans.
Alors, quand vous êtes arrivé en France, vous étiez dans quel régiment ou dans quel bataillon ?
Je suis parti en France avec le 7e bataillon de tirailleurs sénégalais.
Oui. Vous avez embarqué
on
à Casablanca ?
On a embarqué à Casablanca, on s'est
vous avez débarqué à
7.
Oui.
Voilà. Là, on a resté là un peu et puis on est parti directement sur le front. On a commencé à se
déployer. Quand est-ce que vous êtes arrivé
à Arras? Mais nous nous sommes embarqués à Casablanca. On s'est débarqué à Sec. Mais là, on nous a dirigé directement sur le front.
L'engagement de Bakary Diallo, tel qu'il vous l'a raconté, Marc Michel, dans son village, à Mbala, sous l'arbre à Palabre, on imagine la scène, on entend le mil qui est pilé à côté, les enfants.
C'est une scène que je me remémore, il faisait chaud, mais c'est cette chaleur du soir, la chaleur tombante, avec une espèce de douceur tout de même, et Bakary qui parlait. C'est très émouvant de le réécouter. Faut que je précise une chose quand même, c'est que Bakary appartient à une génération très différente de la génération des tirailleurs de la Première Guerre mondiale, parce que Bakary s'est engagé volontairement et que la majorité, l'immense majorité des soldats de la Première Guerre mondiale ne se sont pas engagés, ce sont des conscrits, des soldats d'office.
On l'a donc bien entendu, on a entendu sa fascination pour l'uniforme, voilà. Son comportement est voilà. Très singulier.
Avant 1914, il y avait une fascination pour le tirailleur bien habillé, pouvant parader, le tirailleur qui était tout de même bien nourri aussi. Et puis, quelque chose qui n'est pas entendu ici, c'est que Bakary, si je me souviens de cette interview, ajoute « Ah, mais j'étais un mauvais berger ». Et c'est très important parce que le professeur Camion Bakary dit à un moment donné qu'on désignait des gens de basse condition. Ça voulait dire des captifs, des esclaves, disons, une chose. Et puis, des gens que l'on considérait comme indésirables ou des mauvais travailleurs. Et Bakary, il n'avait pas la vocation d'être berger. Il a vu ces beaux tirailleurs défilant et il est enthousiasmé.
Alors, avant de partir sur le front, Bakary Diallo passe par le Maroc, Marc Michel.
Oui. Au Maroc, vous avez été avec... Vous étiez mélangé avec des troupes blanches ou...
Non, on était des troupes sénégalaises, commandées comme régiment par un colonel et des commandants.
Et les bataillons étaient, oui. N'étaient pas mélangés, des bataillons
non, non, il y avait des unités sénégalaises et des unités françaises, européennes.
Qui combattaient côte à côte.
Qui allaient toujours ensemble. Pas mélangés par compagnie directement.
Au Maroc, les femmes suivaient les troupes sénégalaises.
Les femmes
une femme de tirailleurs sénégalais.
Ah oui, mais ça, celle-là, elle ne nous suivait pas quand nous étions en guerre.
Oui.
Elle campait.
Elle faisait des villages.
Oui, oui. Elle. Je les ai vus là, à Fès, à Meknès. C'est là que j'ai vu les femmes tirailleurs sénégalais, qui étaient d'abord des femmes soldats.
Une femme soldat.
Une femme soldat.
Elle faisait le coup de feu?
Ah non, non, mais seulement, elle n'avait pas peur d'encourager les soldats. Elle n'avait aucune peur.
Certaines femmes, donc... africaines, notamment sénégalaises, ont accompagné, en tout cas, tant qu'ils sont restés en Afrique, les tirailleurs. Marc Michel.
Oui, effectivement, avant 1914, quand il s'agissait des campagnes, des colonnes en Afrique, de conquête, puis les soldats, il y en avait quand même 12 000 qui ont été envoyés au Maroc, c'est assez considérable dans le contingent total du Maroc, puisque on comptait à peu près 80 000 hommes au Maroc en 1914, donc 12 000 tirailleurs sénégalais. On a toujours admis dans le commandement qu'ils pouvaient se faire accompagner par des moussos, des femmes, qui créaient des véritables villages, des coopératives également de d'achat de produits pour les soldats sur place. Mais évidemment, dès la guerre de 14, en Europe, il n'en était plus question.
D'autre part, Bakary Diallo insiste bien sur le fait que les soldats noirs et blancs ne sont pas mélangés. Ce sont des bataillons différents, nous dit-il. Mais vous, Marc Michel, en tant qu'historien, quelles sont les autres différences de traitement que vous pouvez nous expliquer entre les soldats blancs et les soldats noirs, majoritairement ?
Alors, ça c'est une question extrêmement difficile, mais effectivement, les bataillons de tirailleurs sénégalais n'ont jamais été amalgamés compagnie par compagnie dans des unités de marche, c'est-à-dire des régiments de marche, en Europe. En Afrique, bien entendu, ils constituaient la masse des soldats commandés par des officiers et sous-officiers blancs. En Europe, ils n'ont pas été mélangés aux soldats d'infanterie territoriale ou d'infanterie d'active. Ils ont combattu côte à côte, c'est différent. C'est-à-dire que dans des opérations, les bataillons pouvaient être côte à côte, un bataillon noir, deux bataillons blancs, ou l'inverse, un bataillon blanc et deux bataillons noirs.
Enfin, avaient-ils les mêmes équipements, Marc Michel ?
Ils avaient les mêmes équipements, absolument. Ils participaient aux mêmes opérations, si bien que dans les opérations, ils s'établissaient naturellement une espèce de solidarité entre soldats. À l'arrière, ils étaient complètement séparés, puisque à l'arrière, les tirailleurs étaient dans des camps dits d'hivernage.
Restez à l'écoute de La Marche du Monde pour découvrir avec nous le récit inédit de Bakary Diallo, un document sonore exceptionnel restauré par RFI, un témoignage rarissime, celui d'un tirailleur africain de 1914, Bakary Diallo. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale et retrouvez Bakary Diallo juste après les infos sur RFI.